Bonjour à tous, bienvenue. Alors, effectivement, comme disait Marcel et comme le dit la diapositive derrière moi, donc cet après-midi, je vais vous entretenir sur le oui de Marie qui guide et inspire notre propre oui, notre propre réponse dans notre chemin chrétien à la suite du Seigneur, particulièrement éclairé par le thème d'année que le sanctuaire nous donne de vivre et de méditer, celui de l'Annonciation, ce fiat de la Vierge Marie, quand l'ange lui dit « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. » Dans la Sainte Écriture et dans le Nouveau Testament particulièrement, à trois reprises, on retrouve ce oui de la Vierge Marie. Le premier, c'est celui de l'Annonciation. Le deuxième, c'est celui des noces de Cana. Et puis, ce fiat est reprononcé par la Vierge Marie lorsqu'elle se tient debout au pied de la croix quand le Christ remet son esprit au Père. Trois fois dans sa vie, trois fois de manière publique, la Vierge Marie redit ce oui au Seigneur. Et cela nous rejoint, nous aussi, dans notre propre marche à la suite du Christ, dans notre propre réponse à cet appel du Seigneur. À chaque fois, Annonciation, Cana, au pied de la croix, c'est parce que Marie est cette femme à la fois pétrie de l'Esprit Saint et remplie de la parole de Dieu qu'elle peut prononcer un oui total et libre au Seigneur. Alors, pour nous, cette question qui se pose, cette interrogation, et moi? Que dois-je faire? Que puis-je faire pour pouvoir répondre oui au Seigneur, pour pouvoir accepter ce plan divin que Dieu a pour moi et ainsi faire peut-être comme les astronautes sur la Lune avaient dit, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité, un petit pas pour nous, mais un grand pas pour notre sainteté. Au jour de l'Annonciation, la Vierge Marie se retrouve donc seule dans cette nuit et là, dans le secret d'une maison. Et ce secret, nous le retrouvons quelque part ailleurs, qui est le secret aussi auquel nous sommes invités le mercredi des cendres, quand le Seigneur nous dit, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus secrète de ta maison, prie là ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père, qui est présent dans le secret, te le rendra. Voilà comment, dans la vie de la Vierge Marie, ces autres mots de l'Évangile peuvent s'éclairer, peuvent nous parler. C'est dans le secret d'une certaine solitude que Dieu vient à notre rencontre, que Dieu est venu à la rencontre de la Vierge Marie. Là, dans cette maison de Nazareth, il y a ce fameux, ce beau et ce grand dialogue avec l'ange Gabriel. Et ces mots qui sont prononcés, « Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Que tout se fasse pour toi, que tout se fasse pour moi selon ta parole. » Voilà le premier fiat de la Vierge Marie dans le secret d'une pièce pour nous, dans le secret de notre prière. Bien sûr, pour pouvoir répondre et pour pouvoir dire ce fiat, la Vierge Marie avait un cœur tout préparé, notamment parce qu'elle était pétrie de cette parole de Dieu. Si l'on remonte dans l'éducation et dans la vie de la Vierge Marie, nous nous retrouvons avec ce mystère de la présentation de la Vierge Marie au temple et dans la tradition spirituelle de la compagnie de Saint-Sulpice, il y a cette fête de la vie intérieure de la Vierge Marie. Alors, quand j'étais au séminaire à Saint-Sulpice, à Issy-les-Moulineaux, peut-être que cette phrase nous faisait un peu trop sourire naïvement, mais elle nous rappelle dans ce mystère de la présentation de la Vierge Marie, justement, l'intimité de cette fréquentation de la parole de Dieu qui permet de pouvoir se préparer à l'accueillir et se préparer à l'accueillir certainement que nombre d'entre nous l'ont déjà vécu se préparer surtout à se laisser déranger par un Dieu qui se fait présent, peut-être au moment où on ne l'y attend pas, pour paraphraser une grande réplique culte d'un des films français, mais surtout pour pouvoir reconnaître que là, Dieu est présent, là, Dieu me parle, là, Dieu m'appelle, et il m'appelle à lui donner une réponse. Donc, avant de se mettre dans cette vie de prière, de déjà commencer par une vie de fréquentation de la parole de Dieu. Se mettre en présence de ce Dieu qui nous parle, de ce Dieu qui nous rappelle sans cesse qu'il veut faire alliance avec nous, et cette alliance, nous savons qu'elle en est le terme, nous savons qu'elle en est le terme à la fois dans ce qui en est la fin, mais aussi dans ce qui en est le terme dans cette dimension peut-être un peu juridique ou contractuelle, cette vie éternelle. Depuis la création du monde, depuis la fondation du monde, Dieu ne cesse d'appeler l'homme à la vie, il ne cesse d'appeler l'homme à la vie éternelle, c'est-à-dire à cette vision béatifique, c'est-à-dire à cette intimité avec lui. Et ça commence dans une proximité avec la parole de Dieu. Si on regarde la vie et le ministère des prophètes dans l'Ancien Testament, ils n'ont eu de cesse de rappeler aux hommes cette proximité de Dieu, cette rectitude avec laquelle il faut suivre les commandements de Dieu pour justement parvenir à cette vie éternelle. Première étape donc pour nous que nous montre la Vierge Marie, cette intimité avec la parole de Dieu qui est à la fois la source, mais également, d'une certaine manière, le sommet de la préparation intérieure de chacun d'entre nous pour pouvoir répondre à l'appel du Seigneur, pour pouvoir répondre à cette intimité qu'il veut établir avec chacun d'entre nous. Deuxièmement, comme on vient de l'entendre dans ce récit de l'Annonciation, donc le secret de cette prière. Une chose est sûre, nous sommes tous, comme on peut l'entendre ça et là, et comme on peut le dire, des animaux sociaux. Nous avons besoin de relations sociales pour pouvoir vivre, pour pouvoir nous épanouir, certes. Mais, et cela se traduit d'une certaine manière par une vie ecclésiale, par une vie communautaire, c'est-à-dire que ensemble, nous pouvons nous présenter au Seigneur. Ensemble, nous avons à nous offrir au Seigneur en église, en communauté, dans des temps de prière communautaire qui manifestent justement et qui nous rappellent quelque chose d'essentiel, cette vie ecclésiale que le Christ a établie dès le début de son ministère public, notamment au Cénacle, quand le soir de la résurrection, il apparaît à ses disciples et il leur dit « La paix soit avec vous » et soufflant sur eux, il leur donna son Esprit Saint. Et donc, cette prière communautaire, elle ne doit pas se détacher de cette prière personnelle. Ces moments où je me retrouve face à « Je suis ». Je me retrouve face à « Je suis ». Je suis, c'est le Seigneur avec cette dénomination qu'il fait de lui-même avec Moïse au buisson ardent, mais c'est moi. Dans celui qui a été appelé par son nom dès le sein de sa mère, comme nous le lisons dans le livre du prophète Jérémie, c'est moi qui me retrouve dans cette intimité et dans cette relation si particulière avec le Seigneur. La prière personnelle, je crois, elle a quelque chose de très exigeant. La prière communautaire, c'est presque un peu facile. Vous me permettrez de faire un parallèle avec un pèlerinage. On vous donne des dates, on vous donne des heures de conférence et vous y venez. Peut-être qu'on peut faire l'impasse parfois de quelques conférences, mais quand on fait le choix de s'inscrire à un pèlerinage, il y a quelque chose de l'ordre de l'extérieur qui m'oblige à. pour la vie de prière personnelle, comme il s'agit de quelque chose de discret, d'invisible, qui en apparence n'a pas d'incidence sociale, effectivement, si je décide de ne pas y aller, il n'y en a qu'un qui le sait. Il n'y en a qu'un qui le sait, et du coup, eh bien, l'incidence sociale, elle ne nous apparaît pas clairement. Presque, on se dit qu'il n'y en a pas. Et donc, cela pour dire que, effectivement, cette vie de prière personnelle, cette vie d'intimité personnelle avec le Seigneur, elle est exigeante parce qu'elle nécessite un acte de notre volonté, un choix ferme qu'il faudra tenir le reste du temps, auquel il faudra faire porter du fruit. Et ça, dans une nature humaine marquée par le péché originel, nous savons que c'est quelque chose qui est mis à rude épreuve. Et pourtant, dans la vie de la Vierge Marie, cette intimité de l'Annonciation, cette intimité de la maison de Nazareth nous rappelle, oui, que c'est la prière personnelle qui permet de cimenter tout ce qui se vit de manière communautaire. C'est la prière personnelle qui permet, oui, de donner forme à tout ce fond que nous pouvons recevoir de manière communautaire. C'est la prière personnelle qui permet de confirmer in fine quelque chose que nous avons pu percevoir de manière communautaire, quelque chose que nous avons pu percevoir de manière ecclésiale. C'est là, in fine, que ce véritable et profond oui se prononce dans l'intimité, dans cette relation personnelle avec le Seigneur. Et donc, cette prière personnelle qui permet effectivement de nous ouvrir profondément à la vie, comme le fiat de la Vierge Marie permet à la vie d'entrer dans le monde. Au récit de l'Annonciation, effectivement, en répondant « oui au Seigneur », Marie permet de déverrouiller déjà, oui, ces portes du paradis, qui ont été fermées par le péché d'Adam et Ève et que Dieu n'a cessé de vouloir rouvrir pour chacun d'entre nous. Ce fiat de Marie qui commence, qui initie, oui, d'une manière toute spéciale et qui donne forme, c'est-à-dire qui va donner un visage à ce salut que Dieu inaugure dans le monde en donnant naissance au Fils de Dieu, en donnant naissance au Christ. Le fiat prononcé dans la vie personnelle comme ouverture à la vie. Voilà ce que nous enseigne aussi ce mystère de l'Annonciation. Voilà ce que le fiat de l'Annonciation et ce fiat personnel doit permettre pour chacun d'entre nous. Il y a ensuite le fiat de la Vierge Marie au moment des noces de Cana. Aux noces de Cana, ce n'est pas la Vierge Marie qui se met en avant pour essayer d'arracher à son fils quelque chose. C'est Marie qui publiquement décide de collaborer au plan divin de Dieu. C'est Marie qui publiquement interpelle l'Église pour que ce qui est encore en germe puisse se réaliser. C'est là l'Église tout entière qui est mobilisée. Et donc, cela nous renvoie à notre propre participation à la vie ecclésiale. Cela nous renvoie à notre propre docilité à cette vie ecclésiale, de savoir où est-ce que nous nous positionnons et comment est-ce que nous faisons le choix de pouvoir y participer. Faites tout ce qu'il vous dira. Effectivement, c'est dans la tradition de l'Église, c'est dans l'Église qu'est authentifié un véritable appel du Seigneur. C'est l'Église qui confirme un appel. C'est très vrai, par exemple, pour un prêtre, par la voix de son évêque qui est appelé à l'ordination. C'est dans l'Église aussi que peut être confirmé, oui, tel ou tel appel à pouvoir suivre le Seigneur. Voilà ce qui est mis sous nos yeux dans ce mystère de Cana. Et ce mystère de Cana qui déjà, d'une certaine manière, préfigure ce grand mystère, le don du corps et du sang du Seigneur avec cette eau changée en vin. Dans l'Église, Dieu se donne. Par l'Église, Dieu se donne à moi. Voilà ce que la Vierge Marie met sous nos yeux avec ce deuxième fiat. Par l'Église, Dieu se donne à moi. Par mon oui intime, je me donne au Seigneur. Par ce oui prononcé à Cana, Dieu vient se donner à moi. Et si nous faisons un parallèle avec effectivement l'Annonciation, si nous faisons un parallèle aussi peut-être avec la présentation de l'enfant Jésus au temple, quand Dieu veut se donner à moi, reconnaître que cela vient bouleverser un train-train quotidien, reconnaître que cela vient bouleverser des habitudes, reconnaître que cela vient bousculer des plans, et du coup, cela vient remettre profondément en question ce « oui » que j'ai pu prononcer. Cela vient bousculer et remettre en question ces plans peut-être trop humains que j'ai faits parce que, justement, ils n'étaient pas ceux d'un Dieu qui se donne à moi. À Cana, la confiance et l'assurance de la Vierge Marie nous rejoignent dans la confiance et l'assurance que nous pouvons et que nous devons avoir chacun quand nous choisissons librement, en conscience et en vérité, de suivre le Seigneur. Comme nous le dit le Seigneur dans l'Évangile, « Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Ou on peut faire à travers ce passage de l'Évangile aussi, je crois, un parallèle avec cette fameuse barque qui est prise dans la tempête et le Seigneur qui est là et qui dort. Peut-être que d'une certaine manière, à Cana, on pouvait se dire que le Seigneur dormait un peu et il a fallu ce mot de la Vierge Marie pour le réveiller. Mais à Cana, face à la tempête, ou en nous remémorant ces mots de suivre le Christ, cela veut dire prendre sa croix, eh bien, effectivement, il nous faut nous abandonner et faire confiance. Voilà ce que le fiat de Marie à Cana met sous nos yeux, l'abandon et la confiance, qui sont deux éléments nécessaires pour pouvoir affermir le oui personnel que nous avons prononcé, pour pouvoir accueillir un Dieu qui se donne à nous et qui veut se donner sans cesse. Confiance et abandon, certainement pour ne pas se laisser ébranler par toutes les vicissitudes, par toutes les tempêtes, par tout ce qui va certainement déranger nos plans et qui va venir ébranler, oui, ce qui était prévu. Confiance, il t'appelle. Voilà ce que nous entendons également dans la Sainte Écriture. Voilà ce que nous pouvons découvrir à travers ce mystère de Cana. Rempli de la parole de Dieu, une réponse qui se fait d'abord dans l'intimité, et puis en Église aussi, découvrir et être renouvelé dans cette confiance et cet abandon pour pouvoir justement affermir et pleinement enraciner cette réponse au Seigneur. Et cela nous conduit jusqu'au pied de la croix avec la Vierge Marie, où d'une manière silencieuse, bien sûr, d'une manière silencieuse, pour la troisième fois de sa vie, la Vierge Marie prononce ce fiat, pour la troisième fois de sa vie, debout, au pied de la croix, elle est là, avec l'apôtre Jean, et elle voit ce qui est insupportable aux yeux d'une mère, son fils qui meurt sur la croix, le Christ qui remet l'Esprit au Père. Cette présence debout au pied de la croix de la Vierge Marie est véritablement un fiat. Cette position du debout, cette position du ressuscité, c'est cette acceptation de cet événement qui se déroule sous ses yeux, et qui, malgré toute sa cruauté, malgré tout ce qui est indicible de ce moment qu'elle vit, tant d'une manière extérieure que d'une manière intérieure, Marie est là, ferme dans la foi, l'espérance et la charité. Voilà ce que nous pouvons découvrir de Marie, debout au pied de la croix, cet enracinement profond, cette fermeté dans ces trois dons de Dieu, foi, espérance et charité. Bien sûr, c'est parce qu'elle est remplie d'Esprit Saint que la Vierge Marie peut garder cette position-là, mais puisqu'elle est pour nous un modèle, puisqu'elle est pour nous un enseignement vivant, nous pouvons bien sûr lui demander d'intercéder pour nous pour que dans les moments les plus difficiles de notre vie, dans les moments les plus incompréhensibles de notre vie, elle puisse, oui, nous aider à répondre oui, comme elle, remplie de foi, d'espérance et de charité. Foi, espérance et charité sont les trois vertus théologales, les trois dons que Dieu nous a fait au jour de notre baptême et sans cesse, tout au long de notre vie, nous sommes invités à les mettre en pratique, nous sommes invités à y puiser toujours plus, nous sommes invités à demander au Seigneur de pouvoir être renouvelés, rajeunis, j'ai envie de dire, dans ces trois dons divins. Ces trois dons-là sont comme les moteurs de notre vie. Croire ce que nous ne voyons pas encore, espérer ce qui nous est promis et déjà vivre dans ce monde pour pouvoir vivre dans le monde à venir. Voilà ce que la fréquentation des Saintes Écritures, voilà ce qu'une prière personnelle, voilà ce que la confiance et l'abandon doivent nous inviter à revivre, doivent nous inviter à vivre sans cesse de ces trois vertus théologales. À chaque fois, dans ces grandes étapes de la vie du Christ, la Vierge Marie est présente. Annonciation, début du ministère public et ce moment capital où il offre sa vie pour que tout ce qui s'est passé avant puisse effectivement se réaliser. Nous portons ce nom de chrétien. Comme le dit la tradition de l'Église, nous sommes des alter Christus. Comment ne pas croire qu'à chacune des étapes de notre vie, Marie est également présente. Marie est donc présente quand nous sommes dans ce temps de prière personnelle. Marie est donc présente quand nous demandons au Seigneur de pouvoir être affermi ou renouvelé dans cette confiance et dans cet abandon. Marie est également présente dans ces moments de notre vie où foi, espérance et charité sont effectivement nécessaires pour que nous puissions poursuivre notre pèlerinage sur la terre, pour que nous puissions poursuivre notre chemin de vie avec le Seigneur, pour que nous puissions poursuivre cette route au cours de laquelle le Seigneur nous appelle et nous demande de lui répondre oui. Voilà, frères et sœurs, comment cette Vierge Marie, comment la Vierge Marie, dans les trois fiat qu'elle prononce au cours de sa vie, nous rejoint particulièrement. Nous sommes nous aussi invités à lui demander de pouvoir être présente dans notre propre vie, comme elle fut présente dans la vie du Christ, c'est-à-dire ces moments si particuliers, ces moments où l'intimité avec Dieu est capitale, pour que nous puissions le suivre, accepter de prendre notre croix et de pouvoir répondre quand on nous dira « Confiance, il t'appelle ». Merci.
Donc, suite à cette conférence, est-ce que il y a des choses qui ont résonné en vous et il y a des choses où vous avez envie de poser une ou l'autre question ?
Oui, bonjour. Pour le troisième fiat de Marie à la croix, en fait, je n'ai pas noté la phrase que Marie a prononcée.
Justement, il n'y a pas de phrase. Ah, voilà. Justement, il n'y a pas de phrase. C'est cette présence debout au pied de la croix qui est ce fiat qu'elle prononce. Si on reprend l'évangile selon Saint Jean, dans lequel effectivement on a ce récit et « Femme, voici ton fils ». Fils, voici ta mère. C'est la présence de Marie debout au pied de la croix qui est justement une parole, non pas inaudible, en tout cas une parole non verbale. Cette réponse, elle est non verbale, mais elle est réelle par une stature debout dans cette dimension, et c'est ce que nous montre aussi la tradition de l'Église, la stature du debout, c'est-à-dire la stature du ressuscité, la stature de celui qui est affermi, et donc c'est là où Marie, effectivement, prononce son troisième fiat.
Une autre question.
Par exemple, au moment de l'Annonciation, la Vierge Marie a dit oui à une demande précise. Alors, si son oui est notre guide pour nos différents oui, nous, à quoi est-ce qu'on dit oui?
Alors, à quoi est-ce qu'on dit oui? Je pense
à quoi est-ce qu'on doit dire oui?
Alors, à quoi est-ce qu'on doit dire oui? Certainement que chacun d'entre nous, dans ses propres temps de prière, et peut-être... un propre témoignage personnel. C'est à un moment donné, il a fallu répondre oui à un appel du Seigneur pour pouvoir lui consacrer sa vie et être prêtre. Je peux identifier clairement le jour où le Seigneur m'a posé la question. Je peux identifier clairement le temps qu'il m'a fallu pour répondre et jusqu'au jour de l'ordination diaconale, où effectivement, c'est là où le oui on met en pratique ce oui. Certainement que, à travers une demande si particulière, être prêtre, peut-être chacun d'entre nous aurait un autre exemple. Derrière, c'est répondre à un appel précis, beaucoup plus général, mais précis quand même, un appel à la vie éternelle, c'est-à-dire à la sainteté. Répondre oui au Seigneur, c'est-à-dire cela revient à consentir, quoi qu'il arrive, à ce plan divin de salut pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire le voir dans cette vision béatifique, participer à la vie éternelle. Ensuite, il y a ces moments où dans notre vie, il faut répondre oui, qui sont ces petit pas, en apparence, pour pouvoir nous approcher de cette vie éternelle. Il y a eu un moment donné où il a fallu répondre oui pour accepter et entrer dans ce chemin de formation et de discernement pour être prêtre. Et ensuite, il y a les autres moments de la vie du prêtre où il faut répondre oui pour pouvoir être envoyé en mission à droite ou à gauche et dans une mission, répondre oui à de nouvelles choses. Chaque oui qui est prononcé permet de répondre à cette véritable, profonde et pas unique, mais en tout cas grande question que Dieu nous pose. Veux-tu me suivre? Veux-tu vivre de ma vie?
Est-ce qu'on peut dire que, finalement, notre oui pourrait être engendré par notre statut de fils et notre statut de fils de la Vierge Marie? Comment la proximité avec Marie, qui est notre mère, nous permet aussi de vivre des oui au quotidien, accompagné par la Vierge Marie?
Effectivement, en la prenant comme modèle, comme guide, comme mère, c'est-à-dire en reprenant toute cette littérature particule que l'on retrouve d'une manière toute spéciale dans les litanies de Lorette, comme reine également, en faisant peut-être la première de la cour céleste que chacun peut un peu se constituer. On a tous et chacun des saints avec lesquels nous sommes les plus ou moins familiers. Il y a une figure spirituelle qui me parle un peu plus. Il y a une amitié spirituelle qui a été établie parce que, eh bien, voilà, au cours de ma vie, j'ai pu rencontrer telle ou telle figure, telle ou telle personne, tel ou tel saint. Bien sûr, la Vierge Marie est certainement celle qui doit être bien présente dans notre propre oui. Et donc, effectivement, on retrouve quelque chose dans cette proximité avec la Vierge Marie, dans cette assistance maternelle qu'on lui demande, quelque chose, oui, de l'ordre d'un engendrement, parce que derrière, l'engendrement, comme je le dis, enfin, pour reprendre un peu la réponse que je donnais juste avant, c'est un engendrement à la vie. Et donc, cette intimité avec la Vierge Marie, cette familiarité avec elle-même, et dans cette familiarité-là, j'y vois vraiment une familiarité. Il y a quelque temps, un évêque espagnol était de passage ici, et à la grotte, il a fait une homélie. Alors, sur le moment, ça paraissait un peu lunaire. Mais à la relecture, il y avait quelque chose de très vrai. Il venait de perdre sa maman 3 mois auparavant. Et donc, il venait en pèlerinage au sanctuaire avec son diocèse, et son homélie tournait autour du fait d'être accueilli ici à Lourdes, comme on est accueilli chez sa maman. Et il disait, ben voilà, moi maintenant, quand je retourne à la maison, je vais chez mon frère et ma belle-sœur. Et quand j'allais chez maman, je rentrais, j'ouvrais la porte, j'enlevais les chaussures, et je pouvais me mettre dans le canapé. Je n'ose pas faire ça en entrant dans ma maison d'enfance, alors que la maîtresse de maison est maintenant ma belle-sœur. Dans cette histoire de familiarité, d'intimité avec la Vierge Marie, effectivement, quelque chose, voilà, de se dire qu'on est à l'aise avec elle, et parce qu'on est à l'aise avec elle, effectivement, de pouvoir être profondément et véritablement engendré à quelque chose de nouveau par son intercession, par notre familiarité avec elle, et du coup, par le oui qu'elle prononce, qu'il puisse engendrer, qu'il puisse former notre propre oui.
Bonjour, Père Baptiste. Il y a des Espagnols qui ont suivi son enseignement et qui ont des questions.
Hola, has dicho días. Que los sacerdotes sentís una llamada sí. A Dios y tenéis que decir que sí. Pero
vous, les prêtres, vous entendez un appel de Dieu et vous dites oui, mais
¿cómo se traduce eso? En un plano material, ¿cómo es esa llamada?
¿Cómo se traduce cela dans un plan matériel? ¿Cómo se concrétise cet appel?
Pues no hay nada con el móvil. Primer punto, no hay nada con el móvil. Ça ne passe pas par un coup de téléphone. Voilà. C'est pas une lettre que l'on reçoit, c'est pas un coup de téléphone. Non, effectivement, c'est quelque chose qui est de l'ordre véritablement, qui s'inscrit dans cette relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si je peux le dire pour tout le monde. En tout cas, je sais qu'il y a des auteurs spirituels comme Saint Ignace de Loyola qui l'ont dit, et peut-être parce que ça rejoint ma propre expérience. Et je ne sais pas si je peux dire qu'elle est universelle. Ça rejoint ma propre expérience. Mais quand vous écoutez le récit des miraculés de Lourdes, il y a un grand sentiment de paix et de joie au moment où Dieu fait son œuvre physiquement dans la personne. Pour moi, ça a été la même chose. Face à une question qui m'était posée par nombre de personnes de manière très extérieure et à laquelle je m'entêtais pour répondre non, il y a eu ce moment de déclic où effectivement, dans un temps de prière communautaire, dans un temps de cœur à cœur avec le Seigneur, il y a eu cette paix et cette joie, et la réponse, elle n'a pas été tout de suite oui. Ça a été pourquoi pas. Et ensuite, il a fallu tout le temps, à la fois des études et du séminaire, pour arriver jusqu'au oui de l'ordination diaconale, quand effectivement, on se retrouve pour la première fois étendu sur le sol devant l'autel de la cathédrale, où là, on donne effectivement toute sa vie. Et donc, en se replongeant à la fois dans l'expérience des miraculés, en se replongeant surtout, je crois, dans l'enseignement des grands maîtres spirituels tels qu'Ignace de Loyola, comment est-ce que ça se manifeste? Certainement que quand il y a ce sentiment de paix et de joie qui sont là, certainement que Dieu passe. Et je fais un parallèle avec la vie prophétique. Dieu n'est pas dans la tempête, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre, Dieu n'est pas dans le feu, Dieu est dans la brise légère.
Encore une question de l'Espagne.
Gracias. Quería preguntar, escuchando el fiat de la Virgen María, me ha hecho pensar un poco en mi vida.
Il n'y a pas besoin de traduction, hein. Ah, pour les autres, pardon.
Les autres. En écoutant le fiat de la Vierge Marie, cela m'a fait penser à ma vie.
Yo no podía ser madre y vine a Lourdes y le confié a la madre ese deseo y esa misma noche fue concebido mi hijo.
Je ne pouvais pas être maman, mais je suis venue à Lourdes et j'ai confié cela à la Vierge. Et ce même ce jour-là, je suis tombée enceinte.
Después, en la vida de mi hijo, hubo mucho dolor, muchas pruebas.
Dans la vie de mon enfant, il y a eu beaucoup d'épreuves et de douleurs.
Y a su tierna infancia padeció una leucemia desde los 3 a los 6 años, pero sobrevivió.
Et dans son enfance, il a eu une leucémie de 3 à 6 ans.
Y en todo momento, ante las pruebas, yo me iba a mi padre espiritual y a mi comunidad y siempre decía, oren por favor al Señor, que pase lo que pase, yo no pierda la fe.
Je demandais toujours à mon père spirituel, à ma communauté, priez pour moi au Seigneur, pour que je ne perde pas la foi.
No perdí la fe, solamente que seguí ganando la vida de mi hijo, que la madre me lo dejó 44 años más.
J'ai gagné quand même la vie de mon enfant que Marie me l'a laissé pendant 44 ans.
Mi pregunta es, ahora a sus 44 años, mi hijo hace dos meses que la Virgen lo llamó, el Señor se fue con el Señor.
Ma question est, et maintenant ça fait 2 mois que la Vierge a appelé mon enfant auprès d'elle.
Cuando ingresamos, antes yo vuelta me volví a encomendar al Señor, a la Virgen Santísima, pidiéndole que si podía ser que saliera, pero si no, por favor, que me mantuviera la fe, pasara lo que pasara. Mi pregunta es, ¿se puede considerar un sí, un fiat de la Virgen?
Est-ce que cela ça peut se considérer un oui, un fiat de la Vierge pour moi?
Porque sentí que la Virgen me pedía este, ¿me lo entregas? ¿De verdad? ¿Quieres?
Parce que j'ai senti que la Vierge me le demandait comme un sacrifice.
Le fait de, pardon, si, pour préciser la question, le fait que son fils soit décédé il y a 2 mois, comme une offrande ultime, là où il y aurait une demande de répondre oui, c'est bien ça la question? Je crois que l'exemple que vous nous donnez là rejoint, enfin, d'une certaine manière, ce que l'on entend dans l'Évangile. Enfin, et c'est là où ça rejoint le oui. Marcher à la suite du Seigneur, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il faut accepter de prendre sa croix et de pouvoir suivre le Christ. La croix, elle se présente à nous de manière très diverse. Certainement que dans ces manières très diverses où la croix se présente à nous, il y a effectivement cette première image à laquelle nous renvoie la croix, qui est celle de la mort. Et dans certaines des vies chrétiennes, pour pouvoir suivre le Christ, pour pouvoir poursuivre son chemin avec lui, parfois, oui, dans certaines vies, la croix présentée comme véritablement le départ d'un être aimé est quelque chose que le Seigneur nous demande d'accepter comme étant, eh bien, un événement qu'il a accepté de laisser faire pour que, eh bien, la personne qui doit vivre cela, qui doit demeurer en pèlerinage, puisse renouveler là un attachement au Seigneur. Et effectivement, comme vous le disiez dans votre témoignage, à plusieurs moments de votre vie de famille, de la vie de votre fils, vous avez dû répéter ce fiat à la Vierge Marie. Certainement que la leucémie a été pour vous l'occasion de répéter un fiat. Certainement que d'autres événements ont été aussi l'occasion de répéter ce fiat, c'est-à-dire cet attachement au Seigneur. Et aujourd'hui encore, eh bien, face à une croix douloureuse, eh bien, le Seigneur demande encore ce fiat pour vous permettre et pour vous demander de continuer à le suivre, à l'aimer vers cette vie éternelle.
Baptiste, on te remercie beaucoup pour ton intervention.
Merci Marcel.
Merci beaucoup.
Oh, Marie, donnez-nous. Le semeur est sorti pour semer. Il est sorti d'où ? Il vient de là-haut, c'est quelque chose de très théologique. Il est venu au milieu de nous. Et il est venu pour quoi faire ? Pour semer, pour semer, pour semer. Ça insiste, le semeur est fait pour semer, là évidemment. Et nous aussi, nous sommes faits pour cela. Mais en plus, il est toujours à semer. Il continue encore à semer. Il ne t'a pas oublié. Il a semé dans ta vie, il continuera encore à le faire. Il est un peu naïf. On voit dans cette parabole qu'il en a mis vraiment partout. Non seulement il sème, mais il sème en abondance. Je crois que c'est pas un très bon agriculteur. Comme d'ailleurs, c'est pas un très bon mathématicien. Il sait ni retrancher, ni soustraire, il sait que multiplier. Et c'est une parabole de la multiplication, comme celle des pains ou des poissons. Alors, pour que les adultes comprennent bien, je vais demander à 4 enfants de me rejoindre. 4 grands, là, venez, j'en veux 4. Venez, venez. Tiens, viens, viens, voilà. Encore, tu veux venir, toi ? Venez. Allez, les grandes filles, là-haut, les timides. Voilà, viens, il m'en faut encore 1/4. Venez. Allez, viens. Toi, viens, viens. Oui, 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 tout à fait, voilà. Alors, vous allez représenter, mettez-vous là, toutes les 4, voilà. Vous, les 4 ici, voilà. Les uns pas trop collés, là, ici, 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 voilà. Alors, vous allez représenter cette parabole. On va commencer par le chemin. Le chemin, c'est pas très profond, tu sais, c'est très en surface. Tu sais, c'est l'homme d'un moment. Tu vois, c'est celui qui s'intéresse pas trop à Jésus. Ça intéresse de temps en temps, mais pas assez. Alors là, ce qui se passe, c'est que les oiseaux viennent et ils mangent, et ils disparaissent. Terminé. C'est ce qu'on appelle de l'improductivité, ça. Ensuite, la seconde. La seconde graine, elle a été mise dans les pierres. Alors, quand il y a des pierres, il y a évidemment très, très peu de terre. Il y a beaucoup de pierres. C'est peut-être que tu as le cœur dur, toi. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Tu as le cœur dur. Il n'y a pas beaucoup de prières. Il n'y a pas grand-chose dans tout ça. Et quand le soleil va arriver très fort, ce sont les coups durs qui sont là, desséchés. Et toi, à genoux, à genoux, à genoux. Pouf, séché. En ce moment, on voit beaucoup d'herbes comme toi qui sèchent. La troisième petite graine, elle est tombée dans quoi ?
Dans les ronces.
Dans les ronces. Alors, les ronces, c'est quoi ? Qu'est-ce qui est dans ta vie comme ça ? Ça s'appelle les péchés, les séductions, les idolâtries, tout ça. Alors ça, tu sais ce qui se passe ? Ouf ! Ça te touffe ! Ça t'étouffe, tu peux plus vivre, mort, tu peux plus vivre. Alors toi, tu es quoi maintenant, la quatrième ?
Bonne terre.
La bonne terre. Alors tu vas te mettre comme ça en prière, là, comme ça, mets les mains comme ça. Regarde vers le ciel, regarde, regardez la bonne terre. Toi, tu es celle qui a été bien préparée, qui fait souvent sa prière, n'est-ce pas ? Tu fais souvent ta prière ?
Oui.
Mais oui, tu es tout à fait prête à ça. Alors tu sais, même tu as en plus tu as l'arrosoir qui vient te donner de l'eau là, c'est formidable. Et regarde comme tu grandis vers le ciel. Tu es cette bonne terre que nous voudrions tous être. Alors toi vraiment, tu peux dire quelque chose d'important à Jésus.
Merci.
Merci Jésus, voilà. Eh bien, on aime bien ces bonnes graines. Vous avez tous compris ça ? Voilà, c'est si simple. Voyez, comme une petite graine peut changer beaucoup de choses. Vous le savez, vous qui avez la main verte, là, qui faisait ces choses extraordinaires, ces petites graines qu'on travaille avec beaucoup d'attention et beaucoup d'amour, et on sait que ça finit par faire de très belles plantes. Une petite graine, vous savez, peut changer tout un paysage. Ça veut dire que nos petits gestes d'amour, aussi petits soient-ils, et si cachés, peuvent donner beaucoup, beaucoup de fruits. Alors je vais vous raconter une histoire, les enfants, c'est l'histoire du petit Nathan, qui va avec son grand-père, Mardoché, il va avec son grand-père à la campagne, il va dans un champ, et il voit son grand-père qui, alors, il a un grand sac de graines, et le grand-père, il met des graines partout, partout. Nathan dit, mais grand-père, qu'est-ce qu'il fait là? C'est n'importe quoi. Il est en train de tout ça. Il dit, mais grand-père, pourquoi tu les jettes partout? Le grand-père lui dit, tu sais, Nathan, j'ai confiance en Dieu. Alors Nathan, ça l'impressionne beaucoup. Le soir, quand il est dans sa chambre, il réfléchit. Il se dit, mais ça me rappelle que mon cœur, c'est un peu comme le champ où j'étais cet après-midi. Eh bien, moi aussi, je vais distribuer tout le temps ces petits gestes d'amour, ces petits services, ces petites paroles gentilles que je peux semer tout au long de la journée. Et voilà comment Nathan a été très saisi par ce que faisait son grand-père. Les grands-pères s'aiment beaucoup auprès des petits-enfants, et les grands-mères aussi. C'est pour ça qu'on va les honorer à la fin de cette messe, parce qu'ils sont chargés de cela. Ce sont les semeurs de notre temps. Alors, quelques petites réflexions, trois réflexions. D'abord, ce qui est à constater, cette parabole est vraiment très simple, c'est que la grâce, c'est une très lente germination. Nous, nous sommes impatients. Nous voudrions avoir tout de suite. Et le Seigneur se situe à l'échelle des siècles, comme l'Église d'ailleurs. Et ça veut dire, comme vous le savez bien, que la graine a besoin de temps pour grandir. Cette patience est celle qu'il faut demander à Dieu, parce que ce qui a été semé ne germe pas tout de suite. C'est pas la loi de la nature, c'est pas non plus la loi de la grâce qui a besoin du temps pour cela. Est-ce que nous sommes quelquefois jaloux du voisin parce que nous voyons des bons fruits chez lui et ils ne sont pas encore chez nous ? Patience, c'est le temps pour chacun. Cette patience qui est une vertu extraordinaire qui est liée à l'amour, puisque saint Paul nous dit dans l'hymne à la charité, la première caractéristique de l'amour, c'est la patience. Donc la grâce, elle est toujours là, elle est très abondante, il suffit quelquefois d'attendre, parce que chacun a à son tour et il aura en abondance. C'est ce que dit dans la deuxième épître aux Corinthiens, « Celui qui sème peu, moissonne peu. Celui qui sème largement, moissonne largement. » Et à votre avis, le Seigneur est celui qui sème peu ou celui qui sème largement ? C'est celui qui sème largement, ce qui conduit à l'espérance. Car ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, nous le verrons demain. La deuxième remarque, c'est que les bons fruits demande tout un travail. C'est le propre de la vertu qu'on ne peut pas acquérir si vite que cela. C'est pour ça que le Seigneur, dans sa bonté, nous a donné de vivre 60, 70, 60, 80 ans pour que la vertu se développe en nous. C'est cette, pourtant, dans la douleur, parfois, l'Épître aux Romains nous a parlé de cet enfantement qui se fait dans la douleur, mais pour un véritable événement. Et la création tout entière gémit de cette façon-là. Elle gémit, mais en attente du royaume. La création est blessée, notre monde est affolant. Mais regardez bien, si des murs entiers s'effondrent, ça fait beaucoup de bruit, mais l'herbe pousse. Et l'herbe pousse en silence. C'est une façon de regarder notre actualité autrement que certains médias. Oui, ayons encore une fois cette patience et ce discernement pour savoir que la grâce est à l'œuvre en nos vies, en nos familles, en notre monde. Troisième remarque, Dieu ne nous a pas abandonnés, surtout au temps de l'épreuve. C'est l'épreuve qui est là, comme dit l'Écriture aussi, pour façonner notre espérance, pour façonner notre foi. Dieu ne nous a pas abandonnés. Il n'est jamais en panne. Isaïe nous a dit, « Ma parole ne reviendra pas vers moi sans avoir accompli sa mission. » Eh bien, aujourd'hui, on fait même pousser des plantes dans du gravier, en y mettant beaucoup de produits, etc. On arrive à faire ça, vous vous rendez compte? Combien le Seigneur ne peut-il pas faire plus? On fait même pousser des plantes avec quelques déchets végétaux, ça s'appelle la permaculture, si je dis pas des bêtises. On arrive à faire ce genre de semaille. Combien le Seigneur va nous exaucer parce que nous ne pouvons pas encore douter qu'il sème, qu'il sème, qu'il sème. Et parce qu'il nous aime. Wawa. Oui, nous sommes au temps des semailles. Nous ne sommes pas encore au temps des récoltes. Il n'est pas encore question de moisson. Patience. Les semailles, les graines du royaume, elles sont là. Elles ont été données dans notre monde, elles sont nombreuses. Et on envoie des signes pour refaire un peu votre espérance. Vous savez qu'on a bien sûr ordonné des jeunes prêtres il y a pas longtemps dans nos diocèses en France et ailleurs. Les jeunes prêtres aujourd'hui, je trouve, sont de plus en plus beaux. On en a moins, mais ils sont plus beaux. Et je trouve que ça compense. Ça compense parce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la quantité, il est le Dieu de la qualité. Oui. La deuxième chose, et puis il y a des propédeutiques. Dans nos séminaires en France, il y a une nette montée des propédeutiques, c'est-à-dire les entrées au séminaire. Donc patience. La deuxième chose, c'est dans les couples et les familles. Moi, je vois de plus en plus de couples et de familles de plus en plus vertueux et qui sont magnifiques. Et ils sont des témoins dont nous avons besoin. Encore une fois, pas nombreux, mais ils sont là, sachons les voir. Il y a aussi ces nombreux catéchumènes, de plus en plus, que ça se poursuive, cette croissance. Les catéchumènes et les néophytes qui sont en forte croissance. Les grands-parents, je l'ai déjà dit, ils sont aujourd'hui en pleine forme, souvent, les grands-parents. On ne peut être grands-parents à 60, 65 ans. Ils sont au cœur de leur famille. Ils sont ces missionnaires dont l'Église a besoin particulièrement au service de l'unité de leur famille, de quelquefois de l'éducation de leurs petits-enfants et surtout de transmettre la foi qu'ils ont souvent largement reçue. Là aussi, c'est un signe pour notre temps. Le pape François a beaucoup dit que les grands-parents étaient la clé de l'avenir de nos sociétés. C'est pas que les jeunes, c'est aussi les grands-parents qui sont notre avenir. Alors, semer, ça veut dire aussi ne pas nous lasser de faire le bien. C'est curieux comme on regarde beaucoup trop le travail du mal dans notre monde, qui est bien là. Mais il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts pour se faire remarquer. Alors que là où il y a du mal, ne regarde pas le mal, mais fais du bien. C'est très simple, parce que tout simplement le mal, c'est l'absence de bien, c'est pas autre chose. Alors semons le bien, c'est ce que dit aussi saint Paul dans l'Épître aux Galates. Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, le temps des moissons, au temps convenable, nous récolterons si nous ne nous relâchons pas. Et toute la question est de ne pas se relâcher. Alors vraiment, faisons cette prière au Seigneur qui nous apprenne à faire confiance à la terre, à la providence. Quand nous ne voyons pas encore les fruits, que nous fassions comme saint François, semer la paix là où il y a du conflit, mettre de la joie là où il y a de la tristesse, de l'espérance là où il y a du découragement. C'est semer l'amour là où il y a la haine, la foi là où il y a le doute, c'est sourire en face de la peur. Il y a cet adage bien connu, on récolte ce que l'on sème. Et ça s'applique à notre vie spirituelle. Ne nous plaignons pas quelquefois de certaines de nos épreuves qui sont que la suite de ce que nous n'avons pas assez semé. On récolte ce que l'on sème. Et je termine avec cet adage que j'ai trouvé je sais pas où. Celui qui sème l'espérance récolte le courage. Donc vous voyez, c'est une inversion, c'est paradoxal. Il faut pas avoir du courage pour avoir de l'espérance. C'est l'inverse. Ayez de l'espérance et vous trouverez le courage. Et saint François de Sales aussi nous dit « Fleuris là où tu es planté. Parce que si tu vas te planter ailleurs, c'est pas là que tu vas fleurir. Fleuris là où tu es planté. Et c'est là, d'ailleurs, que tu trouveras la grâce. Amen.